Les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Ronan Raffray, professeur de droit à l'Université de Bordeaux, nous dessine les contours du droit de la vigne et du vin. Troisième épisode. L'appellation d'origine viticole, un trésor juridique national ? Extrait du décret-loi du 30 juillet 1935. Intitulé du décret « Défense du marché des vins et régime économique de l'alcool ». Article 20. Il est institué un comité national des appellations d'origine de vin ou eau-de-vie qui est doté de la personnalité civile. Article 21. Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dite contrôlée. Le comité national déterminera, après avis des syndicats intéressés, les conditions de production auxquelles devra satisfaire le vin ou l'eau-de-vie de chacune de ces appellations contrôlées. Ces conditions seront relatives à l'aire de production, au cépage, au rendement à l'hectare, au degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle.
Chers auditeurs, il y a tout juste un siècle, la loi du 6 mai 1919 créait l'appellation d'origine, devenue, par la grâce de ce décret-loi du 30 juillet 1935, l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC. Depuis un siècle, droit du vin et appellation d'origine sont rigoureusement inséparables. C'est une réussite française, selon le professeur Agostini. C'est un bien sublime, selon le professeur Holsack. Je me suis inspiré de ces deux grands spécialistes de droit viticole pour le titre de cette présentation, dans laquelle je vais essayer de vous expliquer ce que constitue, en droit, l'appellation d'origine contrôlée viticole. Le potentiel de cette notion s'est révélé si exceptionnel que je pense qu'elle doit susciter la fierté des juristes français, au même titre que la théorie du patrimoine d'Aubriéreau, l'abus des droits façon Josserand, ou la théorie de la cause selon Maury et Capitan. Lorsqu'en 1922, Howard Carter découvre la tombe de Toutankhamon, on compte, parmi les quelques 4500 objets garnissant les différentes pièces, des jarres qui comportent pour la plupart des inscriptions écrites à l'encre en hiératique, l'écriture simplifiée de l'Égypte antique, qui mentionnent le type de vin, son origine, par la désignation du vignoble ou du maître de chai, et le millésime. Cela nous permet de souligner que l'acheteur égyptien du XIVe siècle avant Jésus-Christ est, comme nous le sommes, attentif entre autres à l'origine géographique du vin. Ceci s'explique par le fait que le vin étant un produit de terroir, comme nous l'avons déjà dit, obtenu à partir d'un matériau agricole, sa qualité est en lien direct avec l'endroit où il est produit. Cette idée de qualité liée à l'origine est le fondement de ce que l'on appelle l'appellation d'origine. Pour comprendre comment fut établi ce raisonnement fondateur de tout un pan du droit viticole, celui donc de la qualité liée à l'origine, je vais maintenant nous déplacer et nous situer à la fin du XIXe siècle, dans une France très grande consommatrice de vin, mais dont le vignoble a été dévasté par le phylloxéra, un puceron américain importé d'outre-Atlantique, qui a littéralement dévoré le vignoble français qui n'était pas immunisé contre lui, contrairement à la vigne américaine. À cette période, donc, l'offre de vin ne peut satisfaire la demande soutenue, et pour combler ce déficit, on produit notamment du vin en réhydratant des raisins secs importés du bassin méditerranéen. Il suffit pour cela de jeter 100 kg de raisins secs dans un tonneau contenant 400 litres d'eau à une température de 20 degrés et d'ajouter du sucre pour activer la fermentation. Pour vous donner une idée, à Bordeaux, on importe entre 8000 et 15000 tonnes de raisins grecs et turcs par an à cette époque. Entre le vin dit naturel, fait à partir de raisins frais, et les autres, les vins artificiels, se joue alors une première bataille, celle de la définition juridique du vin. Une fois le vin défini comme le produit exclusif de la fermentation de raisins frais, on peut s'employer à légiférer sur un second enjeu, celui de la qualité du vin, en s'attachant d'une part à garantir la provenance du vin, en harmonisant d'autre part la qualité de la production d'une même région. La fraude est, il est vrai, omniprésente, et l'on fabrique des champagnes, des bordeaux, des bourgognes, un peu n'importe où et avec un peu n'importe quoi. Au début du XXe siècle, on va donc essayer de poser les bases de la législation contemporaine destinée à protéger la qualité du vin liée à son origine. Après l'échec d'une première délimitation par l'administration, un projet de loi est déposé et aboutit à la loi du 6 mai 1919 qui consacre une première protection des appellations d'origine en confiant aux tribunaux la délimitation des aires d'origine. Il s'agit d'une délimitation géographique qui ne fait pas encore référence au cépage approprié à la meilleure production. Cette première étape, définir une aire au-delà des frontières de laquelle personne ne pourra produire un vin portant ce nom, est néanmoins consolidée. C'est une loi du 22 juillet 1927 qui va sceller le sort des cépages hybrides, gros rendement mais moindre qualité, ils sont bannis pour produire des vins d'appellation. Et donc, avec cette loi du 22 juillet 1927, sont enfin réunis les deux critères essentiels à une viticulture de qualité, que sont la délimitation de l'aire d'appellation et des précisions sur le cépage, critères qui devront être utilisés par les tribunaux. Cette lutte des pouvoirs publics pour une viticulture de qualité conduit les producteurs à faire reconnaître des appellations, ce qui prépare le terrain au fameux décret-loi du 30 juillet 1935 qui fait d'une pierre deux coups. Il institue l'appellation d'origine contrôlée dont la délimitation est confiée à une autre institution créée le même jour, le Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, qui deviendra l'INAO en 1947. Ce décret-loi du 30 juillet 1935 doit beaucoup à deux hommes, et on va leur rendre hommage. Joseph Capu est diplômé d'école d'agriculture. Il a été directeur de la station de pathologie végétale de Cadillac, en Gironde, où il a notamment travaillé sur le greffage. Il a été député, puis sénateur de la Gironde, enfin ministre de l'Agriculture, et il s'est toujours intéressé particulièrement aux principes de qualité pour le vin et la vigne. Joseph Capu pense que si on adopte des définitions rigoureuses de la typicité des vins, en décrivant très précisément des caractéristiques communes au sein d'une même appellation, cela permettra d'une part d'homogénéiser la production, d'autre part de déceler les fraudes grâce à la dégustation et à l'analyse chimique. Le décret-loi du 30 juillet 1935 va s'appuyer sur une proposition de loi qu'il avait élaborée en concertation avec le baron Leroy. Le baron Leroy, lui, a fait des études de droit à Montpellier. Il y a rencontré sa femme et la vie étant bien faite, elle est héritière d'un prestigieux domaine à Châteauneuf-du-Pape. Il s'y installe en 1919, après avoir officié, il faut le dire, comme aviateur durant la Première Guerre. Sollicité par les viticulteurs locaux, qui connaissent sa formation de juriste, il les entraîne vers une production de qualité, participe en 1924 à la création du syndicat des vignerons de Châteauneuf-du-Pape et il obtient en 1933, après 10 ans d'efforts et de recours, un jugement qui définit et délimite l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Et c'est lui qui, en insistant auprès des tribunaux pour que la reconnaissance de son appellation s'accompagne de précisions sur les cépages autorisés, a inspiré la condamnation des hybrides par la loi de 1927. Son amitié avec Joseph Capu lui a permis d'appuyer la création de l'INAO en 1935, dont il sera d'ailleurs le président de 1947 à 1967. Et cette création d'un institut n'aurait pas pu se faire sans un soutien très solide des territoires, et c'est ici que l'intervention du baron Leroy aura été décisive. Pour la première fois, avec ce décret, le terme de qualité est utilisé dans un texte, puisque le décret réserve le droit à l'appellation d'origine contrôlée à celles qui le méritent par leur qualité et leur notoriété. Aujourd'hui, les définitions de l'appellation d'origine contrôlée ou protégée, selon que l'on parle du signe français ou du signe de droit de l'Union européenne, reprennent cette relation fondamentale à l'origine qu'exprime la notion de terroir. Selon une définition de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, le terroir vitivinicole est un concept qui se réfère à un espace sur lequel se développe un savoir collectif, des interactions entre un milieu physique et biologique identifiable et les pratiques vitivinicoles appliquées, qui confèrent des caractéristiques distinctives aux produits originaires de cet espace. Le terroir inclut donc des caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, du paysage et de la biodiversité. L'appellation d'origine contrôlée a connu un destin extraordinaire puisqu'elle est aujourd'hui, dans sa variante l'appellation d'origine protégée, l'AOP, le signe de qualité de la viticulture sur tout le territoire de l'Union européenne. Elle est accompagnée de sa petite sœur, l'indication géographique protégée, l'IGP, qui reprend grosso modo les mêmes principes, mais exprime moins fortement le lien à l'origine. Ainsi, en droit de l'Union européenne, l'appellation d'origine est le nom d'une région, d'un lieu déterminé, qui sert à désigner un vin satisfaisant notamment à l'exigence suivante. Sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérentes. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.